Nous sommes en février 2017 et vous écoutez l'épisode 83 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et pour m'accompagner, j'ai avec moi, non pas Père Castor, qui a cru qu'il pouvait me voler ma chronique. Non mais oh, il se croit où là? Donc le mec, il vient, il dit « Oh, mais je suis avec Flavien, oh, ben, on va faire les chroniques. » Non mais c'est quoi? C'est ma rubrique ça, hein. Donc j'ai fait revenir Matt, qui m'accompagnera encore une fois. Salut Matt.
Salut Dédé, ça va?
Ouais, et toi?
Ça va, tranquille.
Tranquille. Et on remercie la boutique Philibert qui nous aide à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et aussi une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux sur philibernet.com. Et d'ailleurs, si vous passez dans la boutique, faites-leur un petit coucou de notre part.
Mais une excellente qualité de conseil et un site très sympa pour tous ceux qui ne sont pas près de Strasbourg.
Ouais. Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Et merci aussi à la famille Blue.
Dabedi dabeda. C'est ça que t'attendais.
Ouais, c'est ça que j'attendais. Alors l'épisode est une semaine en retard parce que j'ai déménagé et du coup voilà, j'ai pas retrouvé le matos dans les cartons. Donc j'aurai le temps de retrouver.
Je peux témoigner, cet homme dit vrai.
Alors, tout d'abord, des petits retours et des commentaires qu'on a eus sur la chronique Jeux de rôle. Ils nous ont fait un épisode Jeux et politique. Donc, c'est un peu l'année pour ça. Je vous rappelle que j'ai lancé le défi président, dans lequel il faut le jouer avec le plus de gens possible tout au long de l'année. Matt, toi, tu nous avais préparé une petite news. Tu m'avais relayé un article. De la PETA, donc c'est un peu la SPA aux États-Unis.
Ouais, tout à fait. En fait, ils ont attiré l'attention sur un sujet qui leur semblait pertinent, on va dire. En tout cas, je laisse le public en juger. Ils voulaient que on interdise les fourrures sur les figurines de Warhammer 40 000.
C'est une idée.
C'est un combat, c'est ces petites fourrures en plastique qui représentent l'oppression animale, donc quelque part, pourquoi pas.
Mais après, il y a les White Wolf, c'est un peu leur symbole, la peau de loup qu'ils portent sur l'épaule. Donc si tu leur enlèves ça, comment tu les différencies des autres Space Marines, ça me paraît un peu bizarre, quoi. Et après, est-ce qu'on on généralise ça à tout le... même au médiéval fantastique? Parce que du coup, les Vikings en fourrure et des choses comme ça.
Après, je sais pas s'ils sont révisionnistes, donc on va dire que non. Mais effectivement, ils veulent un futur sans oppression de nos chers petits animaux.
Ok, on vous invite à gratter au scalpel vos figurines. Et donc, on va commencer avec ce qui nous amène là. C'est plutôt les chroniques plutôt que de parler fourrure. Alors, on va commencer par Guilin, qui nous parle du jeu Subterra. C'est un jeu coop de Team Pinder.
Alors, moi, je suis plutôt Team Bouglione, si tu me permets.
si tu veux. Alors, je pensais que tu étais plus Tinder que Pinder.
C'est tout est d'une question de chapiteau.
D'accord. Donc, c'est un jeu de donjon crawl, mais futuriste. Il n'y a pas de jeu de donjon de brasse. Hein.
C'est ce que j'étais en train de me dire. Papillon, non plus.
Alors, on l'écoute tout de suite nous parler de Subterra.
Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Ça va trancher, chérie!
Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Ah bon?
Mais oui, t'étais où pendant le film, toi?
Ah mais non.
Je vous avais prévenu, ça va trancher.
Salut les joueurs, salut les joueuses, salut les bricoleurs et les bricoleuses, ici Courju. Pour cette chronique Print and Play, je vais vous présenter le jeu Subterra, un jeu de Team Pinder, illustré par Zach Eidsvoog, édité par ITB Board Games, ITB Inside the Box, un jeu qui a été kickstarté avec succès et dont les fichiers print and play ont été mis à disposition sur la page Kickstarter du jeu et sur la page Board Game Geek aussi. Alors il s'agit d'un jeu coopératif, totalement coopératif, de dungeon crawl, même si c'est pas dans un univers fantasy, puisque c'est finalement des personnes qui sont prisonnières d'un souterrain et qui vont avoir un temps limité pour s'en échapper, sachant que thématiquement parlant, le temps, c'est en gros avant qu'ils aient plus de piles dans leur lampe de poche. Donc le jeu se compose de tuiles qui vont représenter le souterrain et de cartes événements qui vont décrire un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Chaque joueur dispose également d'une fiche de personnage qui va lui donner un petit pouvoir spécial. Ensuite, il y a quelques petits jetons qui vont représenter les points de vie des joueurs, des inondations, des éboulements, des choses comme ça dans le jeu. Donc le jeu se joue en un nombre de tours prédéfini qui tout simplement représente la course contre la montre. Il faut s'échapper avant que les piles des lampes de poche ne soient usées. Selon le nombre de joueurs et la difficulté choisie, le nombre de tours varie entre 22 et 15, je crois. Comment se déroulent les tours de jeu ? D'abord, les joueurs vont pouvoir faire des actions. Chaque joueur à tour de rôle se voit attribuer 2 points d'action qu'il va pouvoir dépenser, donc pour révéler une tuile, se déplacer, faire des actions un petit peu spéciales comme creuser, poser une échelle, soigner un camarade. Les joueurs ont la possibilité de consommer un troisième point d'action, mais dans ce cas-là, ils vont devoir faire un jet en espèce de pile ou face. Ils ont une chance sur deux de perdre un point de vie. Ensuite, il va y avoir une phase de déplacement des éventuels monstres dans le souterrain, c'est-à-dire s'il y a des monstres qui sont en jeu, ils vont se déplacer toujours vers la victime la plus proche possible. Et enfin, une phase d'apparition d'un événement. Donc là, on va tirer une carte qui va dire quel événement se passe. Donc ça peut être l'apparition de nouveaux monstres, ça peut être l'inondation de tuiles prédéterminées, l'éboulement, un tremblement de terre, etc. Il y a toujours un événement et il est toujours néfaste. Une fois que cet événement a été résolu, les joueurs, le jeton premier joueur passe et puis les joueurs recommencent à jouer. Si un joueur perd tous ses points de vie, il va être inconscient, il ne peut plus jouer, mais les autres joueurs peuvent venir le récupérer, le soigner, et dans ce cas-là, il peut se remettre à jouer. Ce qui est particulièrement appréciable dans ce jeu, c'est le ressenti de la pression, de la course contre la montre. On voit la pioche de cartes qui s'épuise, et la pioche de tuiles d'exploration qui, elle, ne s'épuise pas tant que ça. Oui, puisque ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a 64 tuiles qui représentent l'exploration du souterrain, et que la sortie est mélangée parmi les 6 dernières. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a entre 25 et 15 cartes, donc 15 tours de jeu. Donc ça veut dire que il faut arriver à explorer plus ou moins 3 nouvelles tuiles par tour de jeu, ce qui est pas évident, surtout quand on commence à avoir des joueurs qui sont blessés ou qui sont loin, qui doivent courir, etc. Le jeu est plutôt beau, les tuiles représentant le souterrain sont assez réalistes, disons que le souterrain, lui, il a une teinte plutôt bleutée sur fond noir. On a peut-être un petit peu du mal à distinguer le décor sur certaines tuiles, en particulier à savoir s'il y a une sortie, puisque il y a des tuiles qui vont tout droit, d'autres qui sont en forme de croix, en forme de T, etc., pour matérialiser comment on peut se déplacer. Et c'est pas forcément évident, en tout cas sur le print and play que j'ai réalisé, parfois de voir certaines sorties. Les cartes sont assez simplistes. Il y a juste l'événement qui est matérialisé par une iconographie avec son nom et une petite illustration très très sommaire. J'ai trouvé intéressant que l'auteur du jeu fasse un blog expliquant au fur et à mesure ses réflexions sur le jeu. Clairement, lui, ce qu'il a voulu dès le départ, c'était créer un jeu avec un sentiment de tension et un jeu d'horreur, on va dire. Et il a essayé de, pas de résoudre, mais de prendre en compte les problématiques connues sur les jeux coopératifs, en particulier l'effet alpha leader. Clairement, dans ce jeu, il peut y avoir un effet alpha leader. D'ailleurs, on peut jouer en solo en jouant quatre aventuriers. Sa façon à lui de le prendre en compte, c'est de dire que il n'y a pas forcément toujours une bonne solution. Et donc, même s'il y a un alpha leader, on peut pas estimer que ce joueur a forcément la bonne réponse. Et en effet, moi, dans les parties que j'ai fait, j'ai trouvé qu'il y avait suffisamment de choix variés dans les actions qu'on pouvait faire. Et même en prenant 10 minutes pour réfléchir à une action, on n'est pas certain à 100% que c'était le bon choix. Et on se retrouve après d'ailleurs à se dire « Ah ben mince, c'était évident, j'aurais dû faire comme ça ». Donc il y a une certaine profondeur de jeu qui n'annule pas totalement l'effet alpha leader, mais qui permet en fait à chacun de prendre ses propres décisions, sachant que de toute façon c'est pas possible, ou alors la partie durerait 3 jours, d'être sûr à 100% à chaque fois d'avoir fait les meilleurs choix, les meilleures probabilités, puisqu'évidemment il y a le hasard de la pioche, et donc on peut en tenir compte, quoi. Voilà, les pouvoirs des personnages sont intéressants, vraiment variés à exploiter pour pouvoir jouer correctement, hein. Y a le toubib, il y a le garde du corps, le gros costaud, il y a le leader qui va permettre de diriger les autres joueurs. Alors on retrouve évidemment des pouvoirs qu'on peut déjà connaître parmi des jeux comme Pandémie ou autre, mais ils sont vraiment bien mis à partie dans ce jeu, et je trouve ça plutôt réussi. Voilà, je vous mettrai tous les liens sur le site Proxy Jeux. Et maintenant que vous savez quoi faire de vos 10 doigts, jouez bien.
Merci Guilin pour cette chronique. On a appris comment voyager dans les tunnels avec la lampe de poche. Et donc, fallait sortir avant que la lampe de poche ne finisse.
Oui.
C'est sympa comme concept. Alors, on va faire un saut dans le temps et retourner au Far West. Parce que Cyrus, il nous parle de l'adaptation de Colt Express. Alors, est-ce que tu as joué à Colt Express, le jeu
Alors non, mais j'ai fait mieux que ça, comme beaucoup de journalistes. En fait, j'ai vu le trailer, donc je pense que je suis assez légitime pour en parler.
Oui, je pense que...
Mais écoute, juste vu de l'extérieur, ça m'avait l'air assez joli, assez ambitieux, assez dynamique. Voilà, je pense que, par contre, la pertinence de mon avis va s'arrêter là. Et je pense qu'on va peut-être essayer de pouvoir laisser parler Cyrus.
Oui, Cyrus, voilà, qui nous dit. Alors, il n'était pas totalement enchanté au début, et on va écouter, on va voir si son avis au final.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des plateaux numériques, c'est Cyrus. Aujourd'hui, je vais vous parler de Colt Express. Colt Express, c'est un jeu de Christophe Rimbaud, édité chez Ludonote, sorti en 2014 et vainqueur de l'As d'Or et du Spiel des Jahres en 2015. Ce jeu est aujourd'hui un best-seller avec plus de 350 000 exemplaires vendus et a eu le droit à 2 extensions. Alors, dois-je vous présenter ce jeu ? J'avoue que je me suis un peu posé la question, mais je me suis dit, bon allez, il y en a peut-être 2-3 d'entre vous qui sont partis en exploration sur Mars pendant tout ce temps. Alors je vais faire un petit effort pour eux. Donc Colt Express, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, dans lequel chaque joueur incarne un bandit qui va tenter de braquer un train en pleine époque du Far West. Le but du jeu étant d'être le bandit le plus riche à la fin de la partie. Colt Express, c'est un jeu de programmation qui doit, selon moi, son succès à 2 choses. D'une part, son train en 3D qui vient immerger les joueurs dans le thème, et d'autre part, l'ambiance qui se dégage autour de la table. Car qui dit jeu de programmation dit programmation qui foire, moquerie autour de la table, rigolade et tapage de cuisses. Alors, oui, je vous préviens tout de suite, je pars avec un mauvais a priori sur ce portage. Tenez-le vous pour dit, pour moi, jeu d'ambiance et jeu sur tablette ne font pas bon ménage. Alors, bon, écoutez, c'est parti, on va tenter une petite critique du jeu, et la plus objective possible. Alors, le portage, donc. Il a été assuré par Frima Development, qui est une société québécoise qui n'en est pas à ses débuts sur le jeu mobile, mais qui réalise pour la première fois un portage de jeu de société. Le jeu est sorti fin 2016, simultanément sur Android, iOS et Steam. Le tarif affiché est de 4,99€ sur iOS et Android, de 6,99€ sur Steam, à savoir que ces tarifs ont baissé depuis la sortie, qui était respectivement 6,99€ et 9,99€, je crois. En ce qui me concerne, je vais vous parler de la version iOS qui est la seule que j'ai pu tester à ce jour. Le jeu est disponible en 5 langues, dont le français, et ça c'est bien le premier point positif à souligner. L'application propose un tutoriel qui est accessible depuis la page des options, ce qui n'est pas le chemin le plus évident, mais bon, admettons. Le tutoriel est d'excellente qualité, il explique le déroulement du jeu, il explique les différentes actions possibles, en guidant le joueur pas à pas, et en le laissant petit à petit, de plus en plus libre au fur et à mesure qu'il avance dans la partie. Et à la fin, on va même le laisser libre complètement de finir la partie. Pour moi, c'est vraiment un modèle du genre, ce tutoriel. C'est vraiment ce que j'attends d'un tutoriel. C'est comme ça qu'on guide le joueur petit à petit, qu'on lui explique les règles, et qu'à la fin, il soit capable de jouer. Et là-dessus, le pari est réussi. Le jeu propose différents modes de jeu. Un premier mode qui est appelé le mode classique, qui va vous permettre simplement de jouer au jeu tel qu'il existe au format carton, seul, en local, ou via Internet, avec un compte Days of Wonder. Ah oui, Galaxy Asmodee, voilà, compte Days of Wonder, Asmodee Digital. Bon, on commence à se mélanger un peu avec tout ça, mais voilà, c'est un compte Days of Wonder. Il n'est pas possible de jouer à plusieurs sur la même tablette, qui n'est pas nécessairement regretté. J'imagine que certains le regretteront, mais ce serait, je pense que ce serait assez fastidieux à jouer, à moins de trouver une combine pour pouvoir jouer vraiment simultanément sur la tablette en masquant des parties de la tablette. Ce qui me paraît assez difficile. Le jeu propose également un mode histoire, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Donc le mode classique va nous permettre de lancer des parties rapides, donc dans lesquelles le système va choisir tout seul les paramètres, ou bien de lancer une partie personnalisée dans laquelle vous allez pouvoir choisir certains paramètres, donc le nombre de joueurs par exemple, de 3 à 6. Alors oui, il n'est pas possible de jouer à 2 malgré ce que j'ai dit. En même temps, le jeu à 2 est pas foufou, donc c'est sans doute, je pense, un bon choix de leur part. Le jeu propose également des variantes qu'on va pouvoir ajouter à la partie et qui sont débloquables dans le mode histoire. On peut également paramétrer certaines choses qui sont débloquées via les achievements. Il est également possible aussi de rejoindre une partie qui a été créée par un joueur. Donc le jeu en ligne, justement, il faut savoir qu'il est assez difficile de lancer une partie, donc de créer sa propre partie, de voir des gens arriver. En fait, on a un indicateur qui nous dit le nombre de personnes qui sont en ligne, et en général, on est autour d'une petite dizaine de personnes en ligne, ce qui ne veut pas du tout dire que ces gens attendent une partie pour jouer. Ce sont simplement des gens qui sont connectés à l'application. Et donc sur les quelques essais que j'ai fait, alors j'en ai pas fait des dizaines non plus, mais globalement, il fallait attendre environ 5 minutes pour pouvoir rejoindre une partie, ce qui est quand même plutôt long, vous en conviendrez. Surtout que le jeu doit se jouer d'une traite, donc en temps réel. Enfin, si vous sortez de l'application, le jeu ne va pas du tout vous rattacher à une partie, puisque le principe c'est de démarrer tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est un autre inconvénient. Alors, cela dit, évidemment, créer un jeu asynchrone sur un jeu comme celui-là, c'est pas non plus très pertinent. Donc pour moi, c'est quand même un bon choix de leur part que d'avoir privilégié un mode temps réel. Donc si je passe au mode histoire maintenant, donc le mode histoire propose 5 défis pour chacun des 6 personnages, donc 30 défis au total, qui vont amener des variantes, une variante par personnage. Alors on va avoir une amulette par exemple qui va annuler les effets du personnage qui la détient. On va avoir un wagon plat, donc un wagon en fait sur lequel il n'y a pas de toit, qui va couper l'avancée des joueurs. Un explosif, enfin bref, plein de choses différentes qui sont donc introduits comme ça par les défis. Les défis permettent aussi, à chaque défi relevé, on va débloquer une page d'une bande dessinée qui va nous amener un peu de fluff sur les personnages, qui va donc étoffer un peu leur histoire. À la fin, une fois qu'on a tout débloqué, ça construit une seule et même bande dessinée qui se suit, alors bon, qui est découpée enfin un peu par personnage, mais dont l'histoire en fait est liée d'un bout à l'autre. Alors évidemment, c'est pas la meilleure BD que j'ai jamais lue. Je suis pas non plus un grand fan de bande dessinée, mais voilà, elle a le mérite d'exister. Je trouve vraiment l'idée intéressante de prolonger le jeu comme ça avec un autre contenu. Vraiment une idée à retenir selon moi. Malheureusement, bon, il y a quelques petits défauts. La BD, il est impossible de la lire au format portrait, et un bandeau reste présent en haut de page, ce qui empêche de lire une partie des bulles qui sont sur les premières cases. Alors c'est pas rédhibitoire pour comprendre l'histoire, mais c'est un peu dommage. En ce qui concerne les défis en tant que tels, pour moi c'est là que le bas blesse essentiellement. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une idée très intéressante. Seulement, le jeu ne s'y prête pas pour moi. C'est-à-dire que Le jeu possède beaucoup de chaos et c'est ça qui fait son succès. C'est ça qui fait que le jeu est fun et intéressant. C'est ce chaos autour de la table. Et à côté de ça, les défis, eux, c'est plutôt, ils sont plutôt orientés casse-tête. Donc du coup, vous comprenez bien qu'il y a deux mondes qui s'affrontent et qui du coup, matchent pas. Voilà, ça colle pas tout simplement. Ces défis, ils collent pas avec les caractéristiques intrinsèques du jeu. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on a le défi qui nous est proposé. Alors, on comprend ce qu'il faut faire. Quand on comprend, j'y reviendrai. Et puis, on y va. Et il y a un petit truc qui vient enrayer le système. Sauf que il y a personne autour de la table avec vous pour rigoler. Donc vous êtes devant votre tablette et tout ce que ça amène, c'est juste de la mauvaise frustration pour le joueur. En tout cas, c'est vraiment mon sentiment. Et en plus de ça, donc comme je le sous-entendais, les consignes sont vraiment pas très claires. En tout cas, c'est souvent le cas. Les consignes sont pas toujours très claires. Les explications sont parfois insuffisantes. Et on sent, et là, tenez-vous bien, qu'il y a des erreurs de traduction en fait qui ont été faites. Je pense vraiment que le jeu, il a été développé d'abord en anglais et que ça a ensuite été traduit. Et on voit qu'il y a des termes qui sont utilisés à mauvais escient. Pour vous donner des exemples de ratés, le plus probant que j'ai vu, l'application nous disait de récupérer la mallette dans le dernier wagon. Et là, c'est bizarre en fait parce que on voit pas qu'il y a de mallette, mais il y a un petit indicateur qui nous dit la mallette là. Alors on me dit j'ai peut-être été con, mais j'y suis allé et j'ai utilisé l'action ramasser. Je me suis dit c'est bizarre, mais ok. Non, effectivement, il n'y avait pas de mallette à ramasser. En fait, il fallait ramener la mallette que vous aviez au début là-bas. Alors, c'est quand même pas la même chose. Amener la mallette et ramasser la mallette. Ça, c'est vraiment une ambiguïté parmi d'autres. Il y en a minimum une par personnage. Il y a au moins un défi par personnage qui est mal expliqué ou mal détaillé. Et du coup, qui amène encore une fois de la mauvaise frustration. Donc voilà un peu pour le mode de jeu. Alors il y a d'autres fonctionnalités qui sont présentes dans l'application. Il y a un système de rang mondial. Il y a des achievements, j'en ai un petit peu parlé. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a la possibilité de blacklister des joueurs. Donc les joueurs avec lesquels vous avez joué, ça s'est mal passé, ils sont sortis de la partie ou je ne sais quoi, vous pouvez les éliminer pour ne plus jamais les avoir à les rencontrer. Vous pouvez également mettre des joueurs en favoris, donc là à l'inverse, vous arrangez pour les récupérer, pour les retrouver souvent. Dans les autres petites fonctionnalités, on a toutes les choses un peu classiques, l'accès aux règles au format papier, des réglages standards. Il y a un chat également qui est proposé. Alors c'est dommage, il n'y a pas la possibilité de filtrer par langue. Ou alors j'ai pas saisi. En tout cas, j'ai vu. En tout cas, moi j'avais l'application paramétrée en français et j'ai vu des textes en anglais défiler. Bon. Est-ce que c'est juste des gens qui parlaient en anglais ou est-ce que c'est effectivement filtré par la langue ? Ça peut pas être catégorique. En ce qui concerne le gameplay, l'ergonomie, rien à dire. Elle est vraiment réussie. On retrouve ses petits. Il n'y a pas de souci. L'application reprend les graphismes du jeu, donc on est complètement en terrain inconnu. Et en plus de ça, les animations sont plutôt sympas. Les personnages sont animés à la façon, enfin comme s'ils étaient en papier carton. Ça donne des animations assez jolies. En revanche, elles sont un peu lassantes à la longue. Alors, c'est vrai, moi j'ai joué de façon intensive parce que justement, comme je partais avec un mauvais a priori pour réaliser cette chronique, je me suis dit quand même, il va falloir étoffer le truc. Donc j'ai réalisé tous les défis. Les uns après les autres, avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que du coup de la frustration, etc. Et refaire le même défi 4 fois, 5 fois, 6 fois, alors que en théorie on devrait le réussir. Du coup effectivement, voir ces animations défiler tout le temps, ça m'a paru un peu lassant. Il aurait peut-être été intéressant de faire 2-3 variantes sur les animations, peut-être pour renouveler un peu. Alors pour résumer un petit peu cette critique, les plus, effectivement, toutes les idées de l'application, vraiment plein de bonnes idées dans cette application. La BD, les défis, les achievements, pour ça c'est pas nouveau, mais des modes de jeu exclusifs aussi, ça c'est intéressant, donc ce que je vais vous expliquer, le wagon plat, la mulette, etc. Mais à côté de ça, voilà, il y a ces défis qui matchent pas avec le style du jeu. Alors dans les autres petits moins, donc je vais pas vous refaire la critique que j'ai faite plus haut. Ce que je rajouterais juste pour les 2-3 détails, la bande son colle bien au thème, mais elle est lassante. peut-être que c'est parce que je n'aime pas les musiques de style western, c'est possible. Personnellement, j'ai trouvé la musique assez lassante, je l'ai assez vite coupée. Je suis également tombé sur des bugs dans les résultats de partie, donc une partie typiquement, encore, vous allez dire de la frustration, une partie que je pensais avoir gagnée, j'ai fait les comptes en fin de partie, ça me paraissait bon, et à la fin, je ne sais pas pourquoi, il y a un joueur qui se retrouve à avoir gagné des points je ne sais où, et en plus l'application n'affiche pas le détail des points réalisés. Du coup, j'ai pas trop pu comparer. Alors oui, je sais bien que l'as de la gâchette gagne 1000$, c'est le genre de choses, qu'une mallette ça vaut 1000$ également. Pour autant, voilà, il me semblait bien que les joueurs étaient pas devant moi, mais bon. Et puis, un point que j'ai déjà souligné au-dessus, la masse critique des joueurs n'est pas atteinte, ce qui empêche de jouer aisément en ligne. Donc vous l'aurez compris, je suis pas très fan de cette application-là. Pour autant, le jeu est simple, facile à prendre en main, le portage est de qualité, mais voilà, pour moi en fait, le défaut, c'est d'avoir porté cette application finalement, c'est que pour moi c'est un jeu d'ambiance, et jeu d'ambiance ça marche pas sur tablette, ça marche pas quand on joue tout seul. Alors du coup je le recommanderais vraiment aux inconditionnels du jeu, j'imagine qu'il y en a, et aux curieux qui ne connaissent rien au monde du jeu de société, qui tomberaient sur l'application dans l'App Store, seulement ceux-là, ils ne m'écoutent pas. Vous êtes avertis, vous savez à quoi vous en tenir avec cette application. Il me reste à vous dire à la prochaine, et d'ici là, jouez bien.
Alors merci Cyrus pour cette chronique. C'est vrai que Colt Express c'est quand même un jeu d'ambiance. Après on avait reçu les ludonotes dans l'épisode 80. Du coup... où il nous avait parlé des différents modes qu'il prévoyait pour cette adaptation en numérique, et en particulier les petits défis que Cyrus n'a pas eu l'air d'apprécier autant que les créateurs du jeu, quoi. Alors c'est peut-être des erreurs de traduction qui vont peut-être être corrigées par la suite, quoi, à suivre. Ensuite, Yannibus, il nous parle de 5 cornichons. Alors c'est pas, il a pas de compte à régler avec certains de la team proxy.
Pas de ça entre nous.
Non, pas de ça. Non, il nous parle de vrais cornichons. Matt, toi qui es expert en cucurbitacées, est-ce que t'as un conseil pour nos auditeurs au niveau des cornichons?
Eh bien oui, en fait le cornichon d'élevage est assez sensible au froid, et bah, il est conseillé dans ces périodes de mettre un voile de forçage au printemps. Donc voilà, vous êtes prévenus.
Ok, donc il fallait protéger vos cornichons. Sortez couverts avec vos cornichons. Donc, Yannibus nous parle de ce jeu dans lequel il ne faut justement pas ramasser de cornichons. Et ben, on va l'écouter tout de suite.
Mais c'est quoi ce jeu ?
Sous le buzz. Par Yannibus.
Salut les joueurs, salut les joueuses, salut la Proxy Team. Je vous souhaite une très très bonne année 2017. J'espère qu'elle sera ludique pour vous tous. Petite chronique aujourd'hui sur un jeu de cartes que j'ai redécouvert en fin d'année, là, pendant les fêtes de Noël. Et ça va faire plaisir à Monsieur Blu qui me l'a fait découvrir il y a un an ou deux pendant un déjeuner. Il s'agit de 5 Cornichons. 5 Cornichons est un jeu de Friedman Friseux, édité en 2013, je pense qu'il était sorti pour SN. Il est édité en français chez Edge. Dans 5 cornichons, 2 à 6 joueurs vont s'affronter pour essayer de récupérer le moins possible de 5 cornichons. 5 cornichons est un jeu de cartes, un jeu de plis, composé de 4 séries identiques de cartes, 4 séries qui vont de 1 à 15, sans couleur. Voilà. L'objectif de 5 cornichons, c'est surtout de ne pas prendre le 7e pli, puisque le 7e pli rapporte en fait des cornichons, et au bout de 5 cornichons, vous êtes exclu du jeu, le gagnant étant donc celui qui reste le survivant dans cette partie. Dans 5 cornichons, à votre tour de jeu, vous avez le choix entre mettre une carte de valeur égale ou supérieure à la plus forte carte qui a été déjà jouée dans la partie, et si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas, vous avez toujours le choix de mettre votre plus petite carte. Le pli est remporté par le joueur qui a mis la plus grosse carte. Dans le cas où plusieurs joueurs ont joué la même carte, en fait, c'est le dernier dans l'ordre du tour à avoir joué cette carte qui remporte le pli. Il vous faudra donc vous débarrasser avant la fin de la partie de vos plus grosses cartes, essayer de garder la plus petite carte possible en main, ce qui n'est pas toujours évident, et c'est un peu plus complexe que ce qu'on pourrait croire. On se dit, bah en fait, il faut que je joue tout le temps mes grosses cartes pour prendre la main et ensuite rejouer des grosses cartes. C'est pas exactement ça, parce qu'en fait, il faut que vous composiez d'une part avec votre main, ça c'est le béaba bien sûr, mais aussi avec qui est le joueur qui joue le premier dans la partie, donc qui a pris le pli précédent, ça c'est hyper important parce que ça va vous permettre de jouer vos cartes intermédiaires, et il faut également garder des grosses cartes sur l'avant-dernier ou l'antépénultième tour pour pouvoir reprendre la main et évacuer les cartes aussi intermédiaires. Cinq cornichons n'est pas exempt de tout reproche. Vous avez des mains avec lesquelles vous ne pouvez pas gagner. Si vous avez des mains où votre plus petite carte est un 6 et votre plus grosse carte est un 11, ce qui peut arriver. Bon, ben voilà, vous savez que vous allez avoir un tour pour rien. Et là, il faut essayer de limiter les dégâts au maximum. Mais c'est pas, encore une fois, la stratégie aussi simple que ce qu'on peut se dire à la fin de la première partie. Ça reste un jeu fun, plutôt malin, et en tout cas qui plaît bien à tous les publics, en fait, qu'ils soient grands joueurs ou alors joueurs plus occasionnels, voire même la famille avec laquelle vous avez l'habitude de jouer à des jeux de cartes plus traditionnels. L'autre reproche qu'on peut faire à ce jeu-là, et moi que j'ai décidé de contourner, c'est le fait que quand on est 5 ou 6 à jouer, les premiers exclus, finalement, passent beaucoup de temps à attendre que les autres se terminent. Alors vous pouvez jouer comme ça, si vous voulez qu'il y ait un gagnant obligatoirement dans la partie. Nous, ce qu'on décide de faire, généralement, c'est, du coup, quand on joue à plus de 4, on se dit, en fait, on arrête la partie à partir du moment où une personne a 6, 7, 8 cornichons, et voilà. Et donc, il y a un loser et le reste qui sont gagnants dans la partie. 5 cornichons est disponible chez notre partenaire Philibert, pour un prix de 10 euros, un tout petit peu moins de 10 euros, il me semble 9 euros et quelques. Il fait partie de ces jeux de cartes dont Friedman Freeze a le secret, et qui sont, encore une fois, hyper rapides à prendre en main, où vous vous amusez tout de suite. En fait, dès la deuxième manche, vous avez compris comment ça fonctionnait, et vous êtes parti pour plusieurs heures de fun. Voilà une petite chronique ce mois-ci, pour un petit jeu, mais qui est passé un peu sous le buzz à sa sortie, et puis finalement, qui a été enseveli sous des tonnes de nouveautés depuis. J'espère que ça va vous donner envie de ressortir ce petit jeu. Le mois prochain, je chroniquerai un jeu un peu plus costaud, et d'ici là, jouez bien.
Et on remercie Yannibus de nous avoir parlé de 5 cornichons, sur une idée de Monsieur Blu, encore lui, et c'est un peu lui qui dirige le podcast en sous-main, j'ai l'impression. Hein. Mm-hmm. Il donne les thèmes et tout ça.
Il se passe des choses. C'est pas clair.
Non. Ensuite, c'est la dernière chronique de Élise et son papa Stéphane. Ah bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin.
Oui, c'est pas faux.
Voilà. Et il nous parle de Rush Hour, le superbe film avec Jackie Chan et Chris Tucker.
Celui-là même.
En fait, je crois qu'il parle pas du film, mais du jeu casse-tête. Parce que le film, bon, il n'y a pas trop de choses à en dire, quoi. Je ne sais pas si tu l'as vu, le film.
Non, mais je vois le genre.
Tu vois, genre, voilà, c'est Jackie Chan, il fait du Jackie Chan. Chris Tucker, il a un peu repris ce que faisait Eddie Murphy dans Le Flic de Beverly Hills. Et il refait un peu la même chose. Voilà, et après, ça reste du kung-fu, quoi. Donc, on va écouter... Élise et son papa nous parlaient de Rush Hour.
Bonjour, je suis Stéphane et je suis le papa de...
Élise, bonjour.
Et nous sommes là pour la dernière fois pour la rubrique Jeu solo, jeu de casse-tête, avec aujourd'hui...
Rush Hour Deluxe.
Rush Hour, qui est un jeu qui existe en plein de versions. La version... Nous, on est donc une version Deluxe.
Et il y a aussi la version Junior, avec un petit camion de glace.
Je vois aussi que le jeu a été adapté souvent sur Internet, sur des petits sites de jeux gratuits. Il y a également une version de ce jeu avec des animaux du zoo,
oui.
En fait, hein, je crois. Il y a également une version abstraite, hein, donc vous regarderez sur des sites marchands. L'éditeur s'appelle ThinkFun, on est habitué maintenant à cet éditeur, Élise.
Oui.
Et tu vas nous présenter un petit peu le matériel du jeu.
Alors, il y a une petite grille avec des ergots. Donc, de 6 par 6, il y a 10 petites voitures donc de différentes couleurs chromées. Il y a 4 camions chromés eux aussi et une petite voiture rouge brillante, très jolie. Il y a 60 cartes de défi, puis dans un petit paquet.
Ces petites cartes, on peut les mettre où en fait ?
Donc en fait, le plateau dispose d'un petit porte-carte pour le mettre juste en face de nous pour bien voir.
Ouais, et ben ça c'est super parce qu'on a souvent dit d'ailleurs que ça manquait, notamment pour Colorcou, que c'est bien pratique d'avoir la petite, un petit porte-carte devant soi pour disposer le casse-tête. Et au dos des cartes, on a la solution.
Oui, donc en fait, la solution est très, pas très dure, mais elle est quand même dure à comprendre parce qu'il y a le plateau. Avec les voitures auxquelles on a fait correspondre des lettres, voilà. Ouais. Et en bas, bah, y a les mouvements. En fait, il y a marqué up, down, right and left. Et en fait,
tu peux nous lire une solution là pour
qu'on... Par exemple, CL3. Donc ça veut dire C, donc c'est la voiture. L, c'est left. Et 3, bah, c'est le nombre de fois qu'on doit la mettre à gauche.
Voilà, alors ça ressemble plus à un code qu'à une vraie solution.
On dirait un code d'espion. Et,
c'est doublement compliqué parce qu'effectivement, pour nous autres Français, il faut qu'on traduise le fait que right, c'est droite, etc. Au lieu d'avoir mis des flèches. Attends, et donc d'une part, on aurait pu avoir des flèches plutôt que upright, qui sont des termes anglais. Et ensuite, il faut associer la voiture, qui pourtant a une couleur normalement distinctive, à une lettre. Donc c'est vraiment un petit peu compliqué. Bon, ça c'est la solution. Ouais. Généralement, de toute façon, on trouve les solutions. On a oublié de dire le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire sortir une petite voiture rouge de l'embouteillage. Et l'embouteillage est provoqué par les nombreuses voitures qui occupent 2 blocs et les
camions qui occupent 3 blocs.
Il y a 3 camions, c'est ça ?
Non, 4
camions qui occupent 3 blocs. Donc c'est une sorte de taquin. Il faut que les gens reculent, avancent, poussent. On peut pas changer de direction. Il y a pas de, on est comme sur des rails en fait. Et on doit sortir la voiture rouge qui est d'ailleurs sur une sortie qui est figée d'ailleurs, qui est au milieu du plateau à droite. Voilà. Alors Alice, qu'est-ce que tu as souvent joué à ce jeu ? Qu'est-ce que t'en penses ?
En fait, moi je trouve que ce jeu est vraiment très bien. Il est facile à emporter en plus. Hein. Enfin, en fait, on n'a pas... Donc, en fait, c'est vraiment bien. La sensation... j'aime bien, moi, bouger les petites voitures. Ça fait un bruit que certains pourraient trouver désagréable, mais moi j'aime bien, en fait. Ça fait un bruit vraiment très agréable. Et...
En fait, elles sont super faciles à saisir parce qu'ils ont vraiment accentué.
Oui, en fait, ils ont accentué l'espèce de petite cabine.
L'habitacle.
L'habitacle, donc du coup.
Et c'est super facile. Et pareil, elles sont sur des petits ergots, en fait,
des
petits trous.
Ergots, et donc du coup.
Et ça glisse super bien sur le dummy, en fait.
Et donc.
Et le plastique est très beau et la petite voiture rouge, elle est encore plus belle parce qu'elle est comme vos boules de Noël, en fait. Elle est brillante un peu. Elle est réflective. Rouge,
elle est chromée brillante.
C'est très très joli. Et d'ailleurs, la version de luxe a des couleurs très jolies, un peu pastel. Mmh. Pas forcément très facile pour la solution.
J'adore les couleurs des voitures, elles sont magnifiques. Au niveau de la solution, il y a encore un truc, c'est en fait, il y a des voitures qui ont presque les mêmes couleurs. Par exemple, il y a 3 couleurs de vert différentes. Donc du coup, sur la solution, c'est un peu dur de différencier laquelle et laquelle.
Ouais, c'est-à-dire qu'il faut remettre le puzzle comme au début, puis associer les lettres, et puis ainsi de suite. Ouais, voilà. En tout cas, effectivement, une valeur sûre sur Rush Hour. Ça fait un petit... Je crois que c'est le premier qu'on a acheté en puzzle, en jeu solo de casse-tête. Vous regarderez d'ailleurs sur le site de notre partenaire Philibert, il est à 20€, il y a pas mal de notes, il y a 14 notes environ, il a 4,9 de moyenne sur 5, donc c'est vraiment un jeu qui fait l'unanimité. Alors, on a une version avec 40 défis. Je sais qu'il y a 60. Il y a une version Rush Hour, donc c'est la version de luxe. On a une version Rush Hour normale où il n'y a que 40 défis. Et je sais qu'il y a des petits packs avec une voiture supplémentaire, n'est-ce pas,
Elise ? Oui, une voiture supplémentaire qu'on doit, elle aussi, faire sortir de l'embouteillage. Donc, ça fait 2 voitures à faire sortir. Donc, ça complique la tâche.
Voilà. Donc, ça, c'est une bonne façon de rajouter. C'est 6€ le pack. Malheureusement, ils ne sont plus disponibles, je crois. C'était quelques défis de plus avec une voiture de plus. Ben voilà. Bah Elise, on a fini pour ce petit dernier casse-tête. C'est la fin de notre rubrique jeu solo, au moins que tout d'un coup je devienne riche et que j'en achète plein.
Ce sera bien.
Grâce à mes royalties chez Space Cowboy.
Tristesse.
Et donc, il va falloir se quitter. C'était un plaisir d'enregistrer ces petits casse-têtes avec toi.
Bah moi aussi.
Tu as pris goût au podcast ?
Oui, au début j'étais pas trop sûre de moi, mais là ça va.
D'accord. Il faut encore parler bien devant son micro, Elise.
Oui, papa.
Quand on tourne la
tête. Mais moi, j'étais habituée à l'autre micro, c'est pour ça.
Hein ? Ah oui. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je crois qu'il y en a parmi vous qui ont un petit peu se sont penchés sur la question. Du coup, ont acheté des petits casse-têtes.
C'est grâce à moi.
Notamment, je crois, il y a notre ami Yannibus qui a pris Brains, dont on n'a pas parlé, qui est aussi un casse-tête. Alors, vous avez une rubrique jeux solo sur notre site de notre partenaire Philibert. N'hésitez pas à faire un tour. Et vous avez aussi chez Syncfun et Smart Game deux chaînes YouTube avec des explications internationales qui sont assez bien faites. Petites explications sur les jeux, il y a plein de trucs, il y a Pingouin, il y a plein de...
Ouais, il y a les trois petits cochons.
Ça, ça te faisait envie, les trois petits cochons.
C'était trop mignon.
Ça a l'air un petit peu bébé, mais bon.
Mais c'était mignon.
Non, c'était trop mignon. Voilà. Alors, ouais, j'espère que ça vous donnera envie de jouer et de jouer.
Même tout seul.
Voilà, même tout seul. Merci, au revoir.
Au revoir.
Donc, merci Élise et merci Stéphane pour cette chronique. On espère que vous trouverez d'autres jeux solo, que vous gagnez au loto et que vous pourrez acheter plein de jeux solo pour nous les chroniquer. Donc vos chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté les autres chroniques, on vous envoie vers les précédents épisodes pour écouter l'intégralité de leurs chroniques. Ensuite, on va faire un Cyrus, encore lui, et il nous a ramené une petite interview de Guillaume Garcia. Je sais pas, tu connais son grade ?
Non.
Je pense qu'il était sergent.
D'accord. J'étais encore sur le kung-fu, je m'attendais à marron, orange. Non, j'étais pas.
C'était le. Enfin, je sais pas s'il était sergent Garcia, mais en tout cas, c'est l'auteur et co-éditeur de Bellum ou Bellum.
Oui. Non. Comme Cyrus d'ailleurs, qui est un très bel homme.
Merci.
Donc, non, je n'ai pas dit toi, j'ai dit Cyrus.
je te remercie de sa part.
Ah, d'accord.
Parce que moi, ce n'est pas la peine de le dire.
Oui, non, mais oui.
Tout le monde le sait.
Ça transpire de... Voilà. Oui, pas de souci.
Rien que ma voix
c'est ça.
Le transmet. Donc, un nouveau jeu qui va sortir normalement ce week-end. Donc, au moment où vous écouterez, ce sera déjà limite sorti sur Kickstarter. Donc, on va écouter Guillaume Garcia nous parler de son jeu.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Cyrus. Je suis en compagnie de Guillaume Garcia. Alors, je viens de jouer à un jeu dont vous n'avez pas encore dû beaucoup entendre parler. Il s'agit de Bellum. Alors, on dit Bellum.
Bellum.
Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu rapidement déjà de ce jeu, nous présenter?
Alors, Bellum, donc c'est un jeu de cartes de deck building, donc il se passe dans la Grèce antique. C'est en fait un jeu d'affrontement, donc le but, chaque joueur incarne une cité grecque et l'objectif du jeu est de raser la cité adverse, soit en invoquant des créatures qui vont après combattre, soit en lançant des sorts pour un peu détruire les créatures adverses.
Alors dans le jeu, donc moi je viens de faire un début de partie, donc on n'a pas le temps de faire la partie complète. On retrouve l'esprit Magic avec un mélange de deck building à la, alors un système j'allais dire de rivière, mais qui est plus maîtrisé, plutôt un peu comme dans Time Master. En fait, on a plusieurs paquets avec des répartitions de cartes un peu plus maîtrisées, hein, c'est ça?
Tout à fait. Alors en fait, mais effectivement, j'ai eu quand même quelques sources d'inspiration. Deux principales, donc Magic, l'Assemblée, bien sûr, le grand-père de tous les jeux de cartes, et Ascension. Et effectivement, on retrouve un peu des deux. J'ai essayé quand même, en toute humilité, d'améliorer certains aspects que moi je trouvais soit insuffisants, enfin, soit peut-être un peu démodés dans ces jeux-là. Ça reste quand même des très bons jeux. C'était effectivement tout ce qui est la rivière d'Ascension, qui était quand même relativement aléatoire. C'est-à-dire qu'on avait une carte, on cherchait la deuxième carte pour faire une bonne combinaison, mais bon, si elle est au fond de la pioche, de la pile, bah on l'avait jamais. Et donc en fait, là, le système, c'est qu'on a quatre piles de cartes donc mélangées. Et dans chaque pile, on a toujours les mêmes cartes. Donc c'est l'ordre est différent, donc ça permet quand même de varier les parties. Mais si on sait qu'on veut une carte précise, on peut faire l'effort d'aller chercher dans une des piles, parce qu'on sait qu'on va trouver la carte que l'on veut. Donc ça permet un peu de maîtriser tout l'aléa de la sortie des cartes. Qui était un peu frustrant dans les autres genres de deck building que j'aimais bien avant. L'autre référence c'est Magic et là c'était plus la gestion de la base de mana que de Magic que j'aimais pas forcément très bien. Effectivement, si t'as beau optimiser comme tu veux, si t'as pas de chance, bah tu fais t'as que des landes ou autre. Et donc là en fait la ressource elle est beaucoup plus simple, c'est tes cartes que t'as en main. Donc pour acheter une carte il faut en défausser une. Donc du coup, tu es toujours un peu dans le dilemme, est-ce que je veux jouer ma carte pour ce qu'elle est, parce que je veux combattre l'adversaire, je veux faire des choses, ou est-ce que je prépare l'avenir en la défaussant pour acheter une autre carte ?
Ouais, moi j'ai bien senti effectivement ce dilemme dans la partie. Effectivement, des fois on a des cartes, parce qu'en fait, pour acheter une carte, il faut défausser une carte, mais des fois il faut qu'elle soit de la bonne couleur. Donc du coup, est-ce que je joue ma carte pour pouvoir en utiliser les effets, avoir ma créature, etc. Ou est-ce que je la défausse pour enrichir mon paquet, avoir d'autres effets. Effectivement, je te confirme que ça c'est vraiment réussi. Ce que j'ai noté aussi, on a une simplification un peu dans le jeu de système de points, de points de vie.
Oui, alors en fait, chaque joueur a 4 points de vie, si on peut dire, ce sont les 4 quartiers de sa cité. Et pour les faire perdre des points de vie, il faut attaquer avec des créatures et que ces créatures ne soient pas bloquées ou soient encore en vie. Enfin, faut qu'elles arrivent jusqu'à la ville. À partir de ce moment-là, quel que soit le nombre de créatures qui passent et quelle que soit la puissance de la créature va raser automatiquement un des quartiers. Donc effectivement, on n'a que 4 quartiers, donc si 4 fois en 4 attaques on passe, du coup on a gagné. On n'a pas un nombre important de points de vie à suivre. Concrètement, et c'est juste 4 cartes devant soi qui représentent la ville avec une image étalée sur 4 cartes, et quand tu perds un quartier, tu retournes petit à petit les 4 cartes. Donc c'est très simple à suivre, c'est pas vraiment une ressource additionnelle, c'est très simple pour voir où on en est, quoi, effectivement.
Et puis un léger effet de rééquilibrage, parce qu'en fait quand tu te fais raser un quartier de ta ville, tu vas infliger en même temps un dégât à une des créatures qui est attaquée, ce qui fait que tu vas pouvoir la dégager du jeu, et donc ça va tendre à rééquilibrer un petit peu le... C'était une vraie volonté comme ça de rééquilibrer un petit peu le jeu une fois qu'on se fait raser effectivement son quartier ou qu'on perd entre guillemets un point de vie.
Tout à fait, effectivement. Quand tu perds un quartier, bah du coup tu as un petit bonus avec. Alors là, toi t'as joué avec Athènes, donc effectivement le bonus c'était de faire des dégâts. Mais l'idée également c'est que comme on pourra incarner différentes cités, Athènes, Sparte, et on en imagine d'autres, le bonus sera à chaque fois différent. Et on peut même imaginer, quand on retourne la carte, c'est pas juste un bonus, c'est carrément une autre créature qui arrivera automatiquement. Enfin, on peut avoir plein de variations par rapport à la ville que l'on joue grâce à ça.
Ah, ok, d'accord, ça j'avais pas saisi, ouais, ok, ouais, ça paraît intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu maintenant la genèse, pourquoi s'être orienté sur un jeu comme ça, donc un jeu de deck building, parce que c'est quand même un marché, le deck building, maintenant, on a quand même vu beaucoup passer. Moi je te disais hors antenne juste avant que le jeu, il y avait des, dans ce que tu m'expliquais au départ, au moment de l'explication des règles, il y avait des ça me rappelait un peu Epic Card Games, un des jeux de White Wizard, et puis effectivement bon le Magic, et puis la Frousse Rivière, effectivement ça m'a rappelé également Time Master. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup de jeux, hein, qui ont exploité ces mécanismes. Pourquoi être quand même parti sur ce genre de jeu?
Ah ben là il y a plusieurs questions. Une, donc déjà la genèse du jeu, c'est vrai qu'en fait c'est un projet qui date depuis plusieurs années. Donc ça a commencé même en 2011 où j'ai eu mes premières idées de, à force de modifier un peu, de faire des règles perso sur les jeux de société, je me suis dit pourquoi pas créer le mien. Puis après bon les versions sont succédées, donc je suis allé par exemple à Cannes présenter ma première version officielle, enfin si on peut dire, auprès du public. En début d'année dernière, donc 2016, j'ai créé carrément une société d'édition avec deux associés dans le but justement d'éditer ce jeu-là, parce que les retours étaient quand même très positifs. Peut-être que le secteur est très chargé, mais en tout cas les retours, les gens qui jouaient étaient aimaient ce jeu, visiblement ça leur fait plaisir, donc je me suis dit pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à faire. Et bien sûr c'est mon bébé, c'est effectivement, moi aussi je l'aime. Et pourquoi le deck building? C'est parce qu'en fait c'est une mécanique qui permet, sans avoir de générer beaucoup de variété d'une partie à l'autre, parce que les cartes sont pas les mêmes qui sont disponibles, tu vas pas acheter les mêmes cartes, etc., sans avoir à acheter régulièrement des boosters, alors que ce soit des ordres aléatoires ou pas, mais c'est-à-dire que t'achètes une boîte et en fait t'as plein de possibilités, t'as plein de, une rejouabilité énorme. Donc c'est pour ça qu'on a fait le deck building. C'est vrai que c'est une mécanique quand même très riche.
Donc le jeu, là, vous partez pour l'éditer vous-même, si j'ai bien compris, donc avec tes deux associés. Et donc le modèle qui se trouve derrière, c'est vraiment un jeu unique, sans, en tout cas, pas un jeu à collectionner, quoi. Peut-être des extensions si ça fonctionne plus tard. C'est déjà en réflexion ou pas?
Oui, voilà. Si le jeu fonctionne, peut-être qu'on va se pencher sur des extensions. Mais le but là, c'est vraiment déjà d'éditer notre jeu sur lequel on travaille depuis plusieurs années déjà. C'est vraiment faire naître un peu notre bébé avant tout. Après, là, le succès, on sait pas ce que ça donnera. Enfin, on n'a pas prévu 15 extensions, on n'a pas tout un plan. Mais effectivement, il y aura des extensions. Enfin, c'est effectivement un type de jeu qu'on peut enrichir assez facilement.
Alors, elle a un petit nom, j'imagine, cette société d'édition. Comment elle s'appelle ?
Elle s'appelle Moosh Games, M-O-O-S-H.
Alors, il me semble que vous étiez à PEL, ça, Paris Ludique aussi. Vous avez présenté le jeu sur Paris Ludique.
Tout à fait, donc on était présent à Paris et Ludique, on a déjà fait également le salon de Cannes en 2014 et on avait fait le off en 2016 et on a eu beaucoup de retours. À l'époque de Paris Ludique, la mécanique des piles n'était pas encore présente, bien structurée, c'était plus une rivière. Et d'ailleurs c'est grâce au retour des gens qu'on a un peu adapté ça pour faire les piles. On a eu beaucoup de retours et globalement très positif, effectivement.
Ok, alors quel est le plan d'action pour l'édition de ce jeu ? Explique-moi un peu, parce que j'ai que comprendre que vous n'aviez peut-être pas les ressources en propre pour financer le jeu, donc vous voulez passer par un Kickstarter, c'est ça ?
Voilà, le but, effectivement, c'est très simple, il est en deux plans. Le premier, faire fortune pour après continuer à développer nos jeux aux Caraïbes. Et en plus, sérieusement, effectivement, c'est un Kickstarter donc, qui sera lancé le premier week-end de février et qui va durer un mois, afin de lever donc les fonds pour éditer une première version en français. Pour l'instant, on va se limiter à la VF.
Ok, d'accord. Du coup, vous savez déjà de combien d'argent vous avez besoin pour financer le jeu, le premier palier où il se situerait, et à combien se situerait le pledge, on va dire, de base.
Alors, en fait, le palier minimum serait aux alentours de 4000 euros, avec le jeu de base autour de 19-20 euros. Donc avec peut-être d'autres des prix de gros quand on achète plusieurs, des choses comme ça. Mais ce serait le jeu à 20 euros et l'objectif, donc c'est 200 boîtes à peu près. Donc effectivement, on compte pas en vendre des millions, mais l'idée c'est d'abord de faire naître notre bébé et de le partager avec les joueurs qui sont intéressés par ce projet également et qui peuvent aimer ce jeu.
Ok, bah écoute, très bien. On peut peut-être parler rapidement des illustrations. On est sur un thème de antiquité et moi je trouvais les illustrations plutôt pas mal. Je pense que ça va parler aux gamers et c'est la cible du jeu. Elles viennent d'où ces illustrations ?
Alors en fait, pour les illustrations, j'ai travaillé avec trois dessinateurs, trois artistes, donc qui sont Arthur Bozonnet, Giovanni Castro et Alberto Rodriguez Guerrero. Et donc c'est avec eux qu'on a fait les illustrations. Effectivement, le but, c'est que c'est un jeu qui soit vers les gamers, parce qu'il y a beaucoup de combinaisons, de synergies. Et donc effectivement, les images, ce sont des images pas réalistes, mais pas du tout en mode cartoon ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'ils ont fait un travail magnifique. Et donc effectivement, je tiens au passage à les remercier si jamais un jour ils écouteront ce podcast.
Ok, bon, on mettra quelques images, tu me feras parvenir quelques images, plutôt que de faire des photos des cartes, parce que là on est sur un prototype, ça va pas rendre très bien, donc si tu peux me faire parvenir effectivement quelques images, je les mettrai également sur le billet pour que les gens puissent se rendre compte de la dimension épique un peu qui est bien retranscrite sur les graphismes.
De toute façon, on prévoit de faire des séances de démonstration pour l'instant dans Paris, en Ile-de-France, et on imagine également peut-être à Lyon, ça va confirmer. Donc ceux qui sont intéressés pourront tester le jeu avant de pledger, évidemment. Et de toute façon, on vous tiendra au courant des moments ou des lieux auxquels le jeu sera disponible.
Ok, comment on peut vous suivre ? Comment vous avez une page Facebook, un Twitter ?
Alors on a une page Facebook et un Twitter, effectivement.
On mettra, dans ce cas, tu me communiqueras les informations, je les mettrai en lien sur le billet. Est-ce que vous serez présent à Cannes cette année ?
Alors en fait, Cannes, c'est vrai qu'on est une toute petite structure, donc c'est un peu trop cher pour notre budget. Donc on est en train d'essayer de voir des solutions pour que le jeu soit disponible, pour justement que les gens puissent tester en toute fin de campagne, pour voir si ça peut leur plaire ou pas.
Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter éventuellement, Guillaume ?
Ah bah n'hésitez pas à nous suivre, on va vous communiquer hein, là dans le mois de janvier, février... tout plein de choses, donc n'hésitez pas à nous suivre dans ce merveilleux projet.
Ok. Écoute, Guillaume, je te remercie beaucoup pour ce petit temps que tu m'as accordé. Je te souhaite une bonne réussite pour ce projet. Et puis, je te dis à bientôt. Au revoir.
Au revoir et à bientôt.
Merci Cyrus pour cette belle interview. Et nous allons passer à la dernière chronique de ce mois-ci. C'est Dany qui nous parle de... Eh ben, de siège. On jouait se méditer sur le jeu de mots. Bain de siège.
Ah, mais oui. Ah, mais oui.
Donc, le jeu dont on a tous vu la publicité à la télé, qui disait oui, siège avec des catapultes et tout ça. Alors, je sais pas si tu as joué à celui-là.
Bah écoute, je croyais y avoir joué, mais en fait, après une longue recherche documentaire d'à peu près 30 secondes sur internet, je me suis rappelé qu'en fait, c'était pas siège que j'avais, mais c'était arbalète et catapulte. Alors, je crois que c'est la version un peu en dessous en termes d'âge et de règles, parce que je me rappelle pas avoir regardé le bouquin de règles. Mais le fait est que j'avais 5-6 ans et que ça faisait le boulot, c'est-à-dire que tu pouvais détruire des trucs.
Mais de toute façon, en fait, dans ce jeu-là, tu lis pas la règle. C'est le jeu, c'est de balancer le plus.
Ouais, j'imagine. Ouais, non, mais ouais. Et pour ça, ça faisait son office. C'était vraiment cool. Quoi.
Non, mais ils ont quand même Daniel Didic, qu'ils ont quand même trouvé une règle. Donc on va écouter ce qu'elle nous en dit.
Ça, c'est intéressant.
Bonjour à tous. Pour cette troisième chronique, j'ai choisi de vous parler du jeu Siège de MB. Dans ce jeu, des factions rouges et des factions bleues s'affrontent à coups de catapultes, de balistes et autres canons. Les uns sont dans une forteresse, les autres sur le chemin qui y mène, d'où le nom de Siège. Cette grosse boîte est sortie en 1993, à ne pas confondre avec la plus petite boîte, sortie chez le même éditeur en 1966 et qui porte exactement le même nom. Dans cette version-là, le jeu oppose quatre cavaliers qui essayent de capturer un seigneur protégé par 4 fantassins, le tout dans une forteresse. J'ai choisi de parler de la version de 94 car elle a 30 ans, elle fait donc partie des jeux qui sont sortis quand j'étais gamine. J'ai développé très tôt une forte attirance pour tous les trucs moyenâgeux et forcément la pub qui passait à la télé m'a marqué. Je vous passe d'ailleurs la bande-son qui est une présentation du jeu en 20 secondes.
Siège, attaque et détruis le château de ton adversaire dans ce jeu d'adresse impitoyable avec tes canons. Des catapultes, des arbalètes, tu possèdes les armes les plus redoutables pour assiéger la forteresse de ton ennemi et vaincre son armée. Mais attention, tes tirs doivent être précis, car sa riposte sera sans pitié. Siège, prépare-toi à l'attaque.
Siège est une très grosse boîte. Pour vous donner une petite idée, la règle du jeu est proportionnelle et c'est un feuillet 4 pages A3 qui tient largement sans être plié dans la boîte. Pourquoi une si grande boîte? Tout simplement car le matériel est conséquent. Il faut commencer par monter le jeu, c'est-à-dire assembler le parcours en carton qui comporte d'un côté la base pour poser le château et de l'autre les bases pour poser les bantelets et le bastillon. Il y a aussi des arbres en plastique avec des feuilles en carton. Et évidemment, le château, les mantelets et le bastillon sont composés de nombreuses pièces en plastique qui s'assemblent pour former des bâtiments en 3D. Le jeu oppose donc deux armées, une assiégée et une attaquante, toutes deux composées d'un commandant et de 12 soldats. L'assiégé est évidemment dans le château. L'objectif est assez simple, anéantir l'armée adverse. Les attaquants débutent la partie en lançant les dés qui donnent des points de combat. Chaque point permet de charger et tirer un projectile d'une des armes ou de déplacer des fantassins. Les tirs des armes sont effectués avant les déplacements. L'idée est soit d'abattre directement des ennemis, soit de démolir le château ou les bastions pour faire tomber les fantassins, et donc les retirer de la partie. Des points clés sont identifiés sur les bâtiments pour savoir où tirer pour mieux les démolir. L'avancée des fantassins permet de faire progresser les catapultes, et ce, au maximum jusqu'aux arbres qui sont au milieu des deux armées. Le premier qui a abattu tous les adversaires gagne. Tout l'intérêt du jeu est bien évidemment de dégommer construction et fantassins. La règle suggère même de jouer seul en mettant tous les bâtiments côte à côte et en s'entraînant à tirer par-dessus les arbres. Il y a une variante qui limite le nombre de dés de l'adversaire à 1 si le commandant a été abattu. Siège est un jeu très fun avec un tout petit peu de stratégie dans le sens où il faut bien gérer ses points combat. Il est avant tout destiné aux enfants qui seront tout de suite attirés par le matériel. Personnellement, je trouve le concept super chouette, mais les figurines sont fragiles. C'est difficile de trouver une boîte avec toutes les figurines sur socle et entière avec leur drapeau. Cela dit, c'est un jeu qu'on trouve assez facilement et donc on peut faire une boîte avec deux boîtes et avoir quelques pièces en rab. Chez Philibert, vous trouverez bien un siège, mais de chez AEG, tout récent et avec un tout autre concept de jeu. Si vous tombez en brocante sur une boîte de siège version 94 ou 66 de chez MB, prenez-la. La boîte de 94 pour le fun et la boîte de 66 pour le matériel avec figurines peintes d'époque et forteresse 3D moulée en un seul bloc. Et d'ici là, jouez bien!
Alors merci Dany pour cette chronique. Donc vous l'aurez compris, il faut en trouver deux pour être sûr d'avoir toutes les pièces dans la boîte si vous l'achetez en brocante.
Eh bien, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Et vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook. Notez-nous sur iTunes, mettez-nous des commentaires et surtout parlez de nous autour de vous. Et en attendant, jouez bien.